Amis, bonsoir. Soyez les bienvenus pour la conférence organisée par le groupe d'études théosophiques en Tarentaise. Conférence dont le sujet de ce soir concerne la Bhagavad Gita. Alors, pour introduire la conférence de ce soir, nous allons vous lire un passage de la Bhagavad Gita tiré du chapitre 2. C'est Krishna, l'instructeur, qui parle à Arjuna, le disciple. Quiconque s'inquiète du désir des sens y attache son intérêt. De cet attachement naît la passion. De la passion, la colère. De la colère, l'illusion. De l'illusion, la perte de la mémoire. De la perte de la mémoire, la perte du discernement. Et de la perte du discernement, la perte de tout. Mais celui qui, libre de tout attachement et de toute répulsion pour les objets, les expérimente par les sens et les organes, le cœur soumis à la volonté, celui-là atteint à la sérénité. Cet état tranquille, une fois atteint, il en résultera bientôt l'affranchissement de toute affliction et son esprit ayant ainsi atteint la paix, absorbé dans un objet unique, embrassera la sagesse dans toutes les directions. L'homme dont le cœur et le mental ne sont point en repos est privé de sagesse ou du pouvoir de contemplation. Celui qui ne pratique pas la réflexion ne connaît pas le calme. Et comment un homme privé de calme pourrait-il atteindre au bonheur? Son cœur effréné, obéissant aux ordres des passions mobiles, arrache sa connaissance spirituelle comme la tempête emporte la barque sur l'océan déchaîné. C'est pourquoi, ô toi, ô bras puissant, l'homme dont l'entendement est détaché des objets des sens possède la connaissance spirituelle. Ce qui semble nuit aux êtres privés de lumière est grand jour pour le regard du sage. Ce qui leur semble jour, le sage le considère comme nuit, nuit de l'ignorance. Tel est le sage, maître de lui-même. Place maintenant à la conférence.
Eh bien, amis, bonsoir. Donc, on va parler ce soir de la Bhagavad Gita. Et la Bhagavad Gita qui est considérée comme l'évangile de l'Inde. Alors, c'est un grand texte initiatique, on le verra, mais c'est aussi un grand texte théosophique. Un texte théosophique pris dans le sens large du mot théosophie, c'est-à-dire cette sagesse divine qui a toujours existé, qui a été donnée à l'homme à l'aube de l'humanité et qui est d'ailleurs l'héritage spirituel de l'humanité. Alors, la théosophie que Madame Blavatsky a redonnée au XIXe siècle, eh bien, nous a donné des clés, surtout au monde occidental, pour redécouvrir justement cette sagesse divine, cette théo qui veut dire divin, sophia, sagesse. Et donc, et pour également retrouver cette sagesse, eh bien, dans toutes les traditions spirituelles du passé, ces anciennes traditions. Donc, elle va également nous donner des clés pour mieux comprendre la Bhagavad Gita, et pour la comprendre également entre les lignes, tout ce qui se cache entre les lignes, aidé par notre intuition spirituelle. Parce que pour comprendre la Bhagavad Gita, on a besoin de tout cela. Alors, on considère comme texte théosophique tout texte qui va donner une représentation universelle de l'homme et du cosmos dans leur rapport avec le divin. Tout texte également, eh bien, qui va offrir une compréhension des lois qui découlent de cette représentation universelle et tout texte, bien sûr, qui donne une éthique de vie qui en découle également. Donc, une éthique qui va être donnée à l'homme pour qu'il puisse retrouver eh bien, sa place, pour qu'il puisse vivre sa place réelle dans le cosmos, c'est-à-dire sa haute destinée qu'il attend, sa destinée divine. Alors, eh bien, on verra que la Bhagavad Gita correspond tout à fait à ces critères de texte théosophique. Et puis, elle va nous nous apporter son aide, eh bien, pour découvrir la richesse d'une pensée qui nous vient du fond des âges, puisque la Bhagavad Gita a été écrite il y a des milliers d'années, et en même temps pour donner tout leur relief au grand thème théosophique. Donc la Bhagavad Gita, eh bien, s'adresse à tout le monde, elle n'est pas réservée à une élite, à quelques personnes, elle est ouverte à tous, si on veut bien se donner la peine de la comprendre et ensuite de vivre son enseignement. Alors on va situer un petit peu la Bhagavad Gita dans son contexte. C'est un épisode du Mahabharata, le Mahabharata qui est la grande épopée de l'Inde. Et donc la Gita eh bien, relate une guerre qui, pour la souveraineté d'un royaume, une guerre qui se passe entre deux branches d'une même famille, d'une même tribu. Ce sont les Kuru et les Pandu. Alors les Kuru eh bien, sont les oppresseurs des Pandu et ils se sont emparés indûment du royaume. Et les Pandu, après de multiples pérégrinations, eh bien, décident de récupérer leur trône légitime. Donc la Bhagavad Gita se passe sur un champ de bataille, à l'aube de la bataille. Mais bien sûr, tout cela est symbolique. Donc les Kuru, symboliquement, représentent tout le côté inférieur de l'homme, l'homme qui est tourné vers l'extérieur, l'homme qui refuse que les forces de la lumière, de l'esprit arrivent, l'homme qui a pris le royaume, qui a usurpé le royaume, mais dont la présence est utile parce que ils ont leur place dans l'évolution parce que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. Et puis les Pandu, de leur côté, eh bien, symbolisent tout le côté spirituel de l'homme, le côté lumineux, l'avenir réel de l'homme, c'est les Pandu, puisque l'homme est appelé à incarner le divin sur terre, carrément. Et Arjuna représente l'homme en évolution qui a décidé de se laisser guider par sa nature supérieure, spirituelle. Alors, en cela, il est aidé par Krishna, qui est son conducteur de char, qu'il a choisi comme conducteur de char, et qui représente le divin. Alors, il faut bien comprendre que ce que va traverser Arjuna, ce que va vivre Arjuna, eh bien, c'est-à-dire tous ces doutes, ces découragements, ces questions, ces efforts, ont été vécus et seront vécus par tout homme qui décide de se laisser guider par sa nature supérieure. Et la Bhagavad Gita est donc un dialogue entre Krishna et Arjuna, et ce dialogue pourra être compris et approfondi de plus en plus par chacun, et cela au fur et à mesure de son évolution. On peut relire 10 fois la Bhagavad Gita et on découvrira toujours quelque chose de nouveau. Alors, on va parler maintenant du divin dans la Bhagavad Gita. Alors, le divin eh bien, est présent, tout tourne autour du divin dans la Bhagavad Gita. Donc, le divin, comme dans la théosophie, n'est pas un dieu personnel, mais c'est le Brahman absolu qui est la source éternelle de toute vie, de conscience et de matière. Et donc tout émane de ce Brahman absolu et retourne à ce Brahman absolu cycliquement. Et ces émanations cycliques d'univers, eh bien, sont soumises à des lois naturelles. Alors, il y a bien sûr la loi des cycles, comme on vient de voir, parce que tout est cyclique dans l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et il y a aussi la loi de karma, la loi de cause et d'effet, donc qui va donner à l'homme le fruit des actions qu'il a semées dans les vies passées. De karma découle le dharma. Le dharma, c'est ce que nous devons faire. C'est le devoir de l'homme. C'est l'accomplissement de sa destinée karmique. Mais ce n'est pas seulement l'accomplissement de la destinée, c'est en vue d'éliminer les défauts, tous ces défauts qui nous ramènent à la vie terrestre au fil des incarnations. Et donc, au fil des incarnations, sachant que la réincarnation fait partie, est un aspect de la loi cyclique. Et la Gita insiste aussi beaucoup sur la loi d'unité fondamentale entre tous les êtres et leur interdépendance. Et cette loi, implique que chacun, à sa mesure, doit contribuer au bien et à l'harmonie collective. Et cela pour ne pas vivre comme un voleur, comme il est dit dans la Bhagavad Gita. Alors, dans la Gita, le divin n'est pas une réalité lointaine et inaccessible, parce que le divin est au fond du cœur de chacun. C'est la source même de tous. Donc, d'ailleurs, c'est pour cela que découle, que vient la loi d'unité dont on a parlé. C'est de cette racine commune divine. Et toutes ces consciences, donc, qui sont porteuses de divin, sont appelées à évoluer, à élargir leur conscience en vue de retourner à leur racine, c'est-à-dire à ce divin éternel. Et ceux qui y sont déjà parvenus, dans la Gita, sont appelés les Mahatma. Mahatma qui veut dire grande âme. Alors, Krishna, qui représente le divin dans la Gita, suivant le contexte de la Gita, va représenter différents aspects du divin. Soit il va être le divin en tant que source, source éternelle de tous les êtres, soit il sera le rayon divin qui est dans le cœur de chacun. Dans d'autres passages, il sera l'ematma, c'est-à-dire tous ces grands sages réalisés qui veillent sur l'évolution de l'humanité. Et puis, Krishna est aussi le gourou, le compagnon d'Arjuna. Arjuna qui n'a pas encore parcouru le chemin de l'évolution, mais qui est déjà bien entré. Et d'ailleurs, au fil des chapitres, il sera accepté comme disciple par Krishna et qui l'emmènera vers la voie de l'initiation. Alors, maintenant, voyons ce qu'est l'homme pour la Gita. Alors, l'homme, il est représenté par Arjuna, et on l'aura compris, c'est donc un dieu potentiel. Mais pour l'instant, il est incarné dans un corps physique. Alors, l'âme de l'homme, ce rayon divin, qui est dans l'homme, n'a pas de sexe, n'a pas de nation, n'a pas de religion, mais cette âme est incarnée dans un corps pour son évolution. Et ce corps a un sexe, a une nation, a une religion, et aussi de multiples instruments pour penser, agir, souffrir, etc. Et le problème, c'est que cette âme, elle pense qu'elle se personnalise dans le personnage qu'elle incarne. C'est un problème parce qu'elle se prend, cette âme, en se personnalisant dans ce personnage, elle se prend dans les filets du désir, de l'attachement aux objets, de l'égoïsme. Et avec la loi de karma, elle s'emprisonne elle-même par ses choix et ses désirs comme dans une cage d'écureuil où au fil des incarnations, eh bien, elle ne pourra plus sortir de cette cage d'écureuil. Alors pour elle, c'est une souffrance. Et dans sa souffrance, elle va chercher du secours. Et l'homme, souvent, se tourne vers les dieux de la religion. Mais rien ni personne ne peut lui venir en aide, autre que lui-même, puisque cette souffrance, elle provient de ses désirs égoïstes qui sont contraires à la loi d'harmonie et à la loi d'unité. Alors, la Gita, eh bien, va tendre à inculquer à l'homme l'oubli de soi, déjà, et puis également l'importance de l'action, mais de l'action juste. Alors, Krishna va essayer de faire comprendre tout cela à Arjuna, mais il va le mettre en garde aussi, parce que la Gita, ne l'oublions pas, a été écrite en Inde, et il y a des milliers d'années, à une époque où les rites et les sacrifices étaient monnaie courante. Donc, il prévient bien Arjuna que tous les rites, les sacrifices, les prières pour obtenir une vie prochaine meilleure ne servent strictement à rien, ou si ce n'est peut-être à rallonger un petit peu l'état de félicité dont on parlait tout à l'heure, cet état de félicité post-mortem qu'on appelle le Devachan en sanskrit. Krishna enjoint donc Arjuna à être un guerrier, à se lever et à se battre. Mais à se battre contre quoi? Eh bien, contre ses défauts, contre ses habitudes. Il aura sans doute à se battre aussi contre ses amis, sa famille, qui ne voudront pas le voir changer, qui vont s'y opposer. Et c'est pour ça qu'Arjuna, au chapitre 1, eh bien, a un grand moment de découragement et il refuse de combattre. Il dit « Moi, je ne veux plus combattre » parce qu'il ne veut pas se battre en fait contre tout ce qu'il aime. Et bon, on le comprend. Mais Krishna va lui montrer que le combat est absolument inévitable. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il sera obligé de se battre parce que c'est sa destinée divine. Personne n'échappera au combat. Alors, Krishna enjoint donc Arjuna à être un guerrier, à être un chevalier au cœur généreux, à être le héros qui dort finalement au fond de chacun d'entre nous, et à se lever et à affronter les difficultés de la vie. Et pour cela, Arjuna doit être capable de reconnaître son devoir vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis d'autrui. Et par la suite, il lui sera même demandé beaucoup plus, puisqu'il faudra qu'il soit prêt à sacrifier sa vie pour cet idéal divin. Alors, en un mot, en fait, dans la Bhagavad Gita, Krishna pousse Arjuna à accomplir simplement sa destinée divine. Et cela à travers sa destinée terrestre, qui est faite, comme tout un chacun, de choix, de luttes, d'échecs, de prise de conscience, etc. Donc, la Gita, par la voix de Krishna, s'adresse à chaque homme, à chaque Arjuna que nous sommes, pour que l'on puisse déjà distinguer ce qui est permanent, éternel, de ce qui est provisoire, de ce qui est périssable. Et aussi que l'on puisse trouver son swadharma, c'est-à-dire ce que l'on doit faire dans cette vie, ce que la vie attend de nous. Alors, quand l'homme a fait la distinction entre le permanent et le passager, il va devoir, on va lui expliquer qu'il va falloir prendre du recul et changer d'optique pour justement aller vers ce permanent. Et donc, pour aller vers ce permanent, il doit faire appel au divin qui est en lui. Et ça ne va pas être un appel pour trouver un sauveur, mais ça va être un appel pour trouver un ami. Un ami qui va l'inspirer quand l'homme aura été capable de calmer dans son mental la voix du moi personnel, c'est-à-dire la voie des désirs et de tous les sentiments liés à l'égoïsme. Et c'est dans cet espace secret de son âme, eh bien, que pour l'homme, le tumulte du monde va changer, peu à peu de signification à ses yeux. Et ça, c'est la discipline du Bodhi Yoga, donc que Krishna dit à Arjuna, dans laquelle il lui dit de prendre refuge, ça au chapitre 2 de la Bhagavad Gita. Alors, l'étape suivante, dans le chapitre 3, eh bien, ce sera pour l'homme d'accepter le karma que lui impose la vie. Et d'accepter ce karma parce que justement, c'est le meilleur possible pour lui. C'est sa juste place. Il n'y en a pas de meilleur. Mais le fait d'accepter ce karma et de l'accomplir ne doit surtout pas lui faire attendre quoi que ce soit en retour, hein, aucun bénéfice personnel. Et en effet, il offre les actes, il ne les monnaie pas contre peut-être une évolution personnelle, parce que ce serait de nouveau pour lui et ce serait égoïste. Donc, il doit simplement faire son devoir, son swadharma, ce que la vie attend de lui, le mieux possible pour donner l'exemple à ses frères dont il est responsable, puisqu'on a vu qu'il y avait interdépendance entre tous les êtres. Alors, l'homme a déjà un peu avancé sur le chemin, il est prêt à accomplir le mieux possible et généreusement les actions qu'il a à accomplir dans la vie. Mais pour que tout cela ait un sens, eh bien, il va falloir qu'il comprenne pourquoi. Donc, il va lui falloir la connaissance. Mais pas seulement la connaissance livresque, c'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Et pour que cette intelligence du cœur, cette sagesse se manifeste, eh bien, encore une fois, il va falloir abandonner le tourbillon des désirs et des passions de la vie et se tourner vers le divin intérieur, vers ce rayon divin omniscient qui nous adombre et qui plus tard pourra même faire jaillir la connaissance spontanée. Plus tard, cette sagesse nous montrera aussi l'unité du cosmos et donc l'unité de tous les êtres avec soi-même. Et on arrive au chapitre 5, où comprendre cette unité, comprendre la non-séparativité des êtres, va provoquer un basculement de la conscience. Et ce basculement, ça va être le renoncement. Le renoncement qui va arriver peu à peu, et qui va être de plus en plus naturel jusqu'à devenir une évidence. Et en effet, lorsque l'homme comprend que rien ne lui appartient pour toujours, eh bien, il renonce. Il va abandonner tout projet personnel en vue d'un gain quelconque. Et en effet, ce genre d'attitude n'aurait plus lieu d'être à partir du moment où il a compris tout cela. Et puisqu'il sait instinctivement eh bien, qu'il fait partie intégrante des autres. Et ce renoncement en fait, à tout projet personnel eh bien, va commencer à libérer l'âme qui s'était prise dans les filets karmiques à cause de ses choix antérieurs. Cette âme va commencer à être libérée, donc. Pourquoi ? Parce que justement ce renoncement s'harmonise avec avec son foyer divin et ce foyer divin ne vise que l'universel. Donc il commence à s'harmoniser avec. Et à ce stade, eh bien, l'homme commence à se préoccuper plus eh bien, des intérêts supérieurs de la famille humaine plutôt qu'à son petit bonheur à lui. Donc il a déjà fait du chemin. Alors, le soi inférieur s'élève de plus en plus vers ce divin intérieur Et la méditation de l'homme devient de plus en plus profonde au chapitre 6. Et donc la voie de communication entre la conscience personnelle et ce divin supérieur qui l'illumine, eh bien, commence à s'ouvrir. Et cette voie de communication, eh bien, quand elle s'ouvre, il y a réponse du divin qui va pouvoir commencer à donner ses ordres pour la conduite de la vie. Alors, au fur et à mesure que ces étapes se franchissent, eh bien, naît dans l'homme la bhakti. La bhakti, on peut traduire ça par dévotion. Mais le mot dévotion ne montre pas exactement ce qu'est la bhakti. Parce que la bhakti exige que le grand pouvoir d'amour soit libéré. C'est-à-dire que que l'homme ait un amour égal pour toutes les créatures. Donc, que l'homme ait la capacité infatigable d'agir pour le bien de l'humanité. Qu'il ait un cœur pur et dégagé de tout attachement, et que son âme soit à l'unisson de son foyer divin. Alors, la vraie bhakti, on voit que c'est une métamorphose totale de l'homme intérieur. Et donc, ça ne va pas arriver avant de longs chapitres. Mais avant cela, eh bien, la maturation spirituelle de l'homme se poursuit au fil de ses efforts. Alors, au chapitre 7, la Gita débouche sur la voie de l'initiation. Parce que les efforts de l'homme ne suffisent plus, il va avoir l'aide d'un gourou initiateur. Quoique Krishna ne reconnaisse Arjuna comme son disciple qu'au chapitre 9. Mais à partir de là, eh bien, il va conduire Arjuna vers des étapes de plus en plus profondes de réalisation et il va avoir un discours hautement métaphysique. Et en fait, Krishna prépare Arjuna à l'expérience qu'il va vivre au chapitre 11. Et en effet, Krishna va permettre à Arjuna d'assister à une expérience mystique et en lui permettant de voir la transfiguration impressionnante de son maître, c'est-à-dire de Krishna. Krishna donne à Arjuna pour cette expérience, il lui prête l'œil divin. Et donc ça va permettre à Arjuna de voir que toutes les formes sont contenues dans le soi divin. Et Arjuna va s'apercevoir alors que Krishna est réellement un être divin et il va être terrifié par sa grandeur. Parce que jusque-là, il l'avait considéré comme un être humain, comme son ami même. Et donc là, il est terrifié. Et en fait, les hommes en général, à moins d'être des initiés, ne reconnaissent pas un maître divin s'il a pris une forme humaine. Ce n'est pas possible. Ensuite, dans le 12e chapitre, on comprend à ce moment-là que la voie de la libération passe presque obligatoirement par un gourou initiateur. Parce que Krishna dit à Arjuna que l'autre voie, la voie du non-manifesté, est quasiment impossible, pas impossible, mais extrêmement difficile pour l'homme. Et ce chapitre parle également beaucoup de la bhakti, donc la dévotion dont on a parlé tout à l'heure, et on a bien compris que ce n'était pas la dévotion que pratiquent les dévots des religions exotériques, hein, ça n'a donc rien à voir. Et Krishna met d'ailleurs une échelle de degrés pour la bhakti, et qui finit par la bhakti où on donne tout au divin et on se fond avec le divin même. Alors, dans le chapitre suivant, Krishna poursuit son enseignement en enjoignant Arjuna de ne pas confondre le perceveur avec le champ de perception Et il le met en garde contre tous les dangers qui l'attendent dans ce chemin de l'initiation, contre l'illusion de l'homme sur sa nature essentielle. Et il exhorte Arjuna à suivre la voie mystique. La voie mystique où le disciple va pénétrer des mondes inconnus, soutenu seulement par sa volonté, sa bhakti et son amour. Dans le chapitre 14, Krishna parle ensuite des trois qualités qui sont inhérentes à l'homme. Ces trois qualités s'entremêlent pour... Il y en a une qui sera plus prépondérante chez un homme, une autre chez un autre. Et ces qualités sont la qualité de sattva, qui correspond à la vérité, la lumière, mais qui enchaîne l'homme à la vie par son attachement justement à la connaissance. La qualité de rajas, qui est la passion et les désirs et qui enchaîne l'homme, cette qualité amène les penchants de l'homme et elle enchaîne l'homme par les actions et leurs conséquences. Et la qualité de tamas, qui est la qualité de l'obscurité, de l'indifférence, et qui enchaîne l'homme à son corps, par la paresse, par l'ignorance. Et donc, quand l'homme a compris l'attraction de ces trois qualités sur lui, à ce moment-là, il faudra qu'il s'en détache, qu'il ne s'identifie plus à aucune des trois, même pas à la qualité de sattva. Il va falloir qu'il aille au-delà de ces trois qualités. Krishna parle ensuite également de l'arbre, de l'arbre sacré, l'arbre du cosmos, qui a ses racines en l'air et les branchages et les feuillages vers le bas. En fait, il représente l'univers comme un courant éternel d'évolution qui a sa source, qui émane d'une source qui est immuable. Voilà ce que représente cet arbre sacré. Et dans le chapitre suivant, le chapitre 16, les qualités divines sont mises en opposition avec les qualités démoniaques. Mais l'homme doit s'élever encore une fois au-delà de tout cela et au-delà de ce qu'on appelle les paires d'opposés, c'est-à-dire la douleur et la félicité, le plaisir, l'obscurité et la lumière, etc. En fait, le véritable discernement procède de l'universel, donc il embrasse toute la nature. À ce moment-là, il n'y a plus du bon et du mauvais, car l'homme qui est le témoin intérieur, ne s'identifie plus à ce moment-là à ses perceptions. Et on arrive au chapitre 17 où Krishna révèle qu'il y a trois sortes de foi et que la foi provient de la nature profonde de l'homme. Donc, elle est donc en rapport avec les trois qualités dont on a parlé, c'est-à-dire sattva, la vérité, rajas, l'action, et tamas, l'indifférence. Et dans ce chapitre, il dit surtout à Arjuna quelque chose d'important, c'est que la connaissance qui est donnée aux disciples doit être redonnée aux hommes, elle ne doit pas jamais être gardée pour soi. Et par compassion, celui qui a atteint la vérité, doit revenir dans ce monde pour la transmettre aux autres. C'est ce qu'on appelle la chaîne des maîtres et des disciples, la chaîne Guru Parampara. Alors, jusqu'au bout, la Gita va préserver le libre arbitre de l'homme, puisque encore au dernier chapitre, au chapitre 18, Krishna dit à Arjuna, agis comme il te semblera le mieux. Et chacun de nous, est Krishna et Arjuna. Et là où ils sont ensemble en union, la nature entière fait sa soumission. parce que l'être est alors un être éveillé. Et Madame Blavatsky, quand elle parle de la Bhagavad Gita, dit que c'est un des anciens livres d'initiation dont la plupart malheureusement ont été perdus, et que la Gita est un exposé des antiques enseignements donnés durant le mystère de l'initiation. Si vous voulez, on va lire maintenant quelques versets du chapitre 18. Alors celui qui, pénétré de pur discernement, se maîtrise avec fermeté, écarte les charmes des sons et autres objets des sens, et se débarrasse de l'attachement et de l'aversion, qui demeure dans des endroits retirés, mange peu, tient sous contrôle le langage, le corps et le mental, s'engage dans une méditation constante et reste inébranlablement établi dans le non-attachement au désir, qui abandonne l'égotisme, l'arrogance, la violence, la vanité, le désir, la colère, l'orgueil et les possessions et demeure toujours calme, un tel homme est qualifié pour devenir l'être suprême. Ayant ainsi atteint au suprême, il est plein de sérénité, il ne connaît plus l'affliction ni le désir, mais égal envers toutes les créatures, il atteint la suprême dévotion pour moi. Par cette dévotion pour moi, il sait fondamentalement qui je suis et ce que je suis. Et m'ayant ainsi découvert, il entre en moi sans traverser d'état intermédiaire. Et même l'homme toujours engagé dans l'action, s'il place sa confiance en moi seul, atteindra grâce à ma faveur la demeure éternelle, impérissable et incorruptible. Que ton cœur place toutes tes œuvres en moi, préfère-moi à tout, pratique constamment la consécration mentale et pense constamment à moi. Ainsi, par ma grâce divine, tu vaincras toutes les difficultés qui t'entourent. Mais si, par orgueil, tu ne veux pas écouter mes paroles, tu seras perdu sans aucun doute. Et si, plein de suffisance, tu disais « je ne veux pas combattre », une telle détermination se révélerait vaine, car les principes de ta nature te pousseront à le faire. Lié à tes devoirs naturels par tout le karma passé, tu feras involontairement et par nécessité ce que dans ta folie tu ne voulais pas faire, ô fils de Kunti. Il y a dans le cœur de chaque créature, ô Arjuna, le maître Ishvara, qui, par son pouvoir magique, cause la rotation de toutes les choses et de toutes les créatures sur la roue universelle du temps. Prends refuge en lui seul, ô fils de Bharata, et de toute ton âme, et de toute ton âme. Par sa grâce, tu obtiendras le bonheur suprême, le lieu éternel. Ainsi, je t'ai communiqué cette connaissance qui est le mystère plus secret que le secret lui-même. Approfondis-le avec ta raison. Agis comme il te semblera mieux. Voilà.